Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Cécile Rodrer, la fondatrice de Smallable, ce concept store de référence dans l'univers de l'enfant, mais pas que, sinon nous ne serions pas là. Smallable, c'est donc de la mode pour bébés, enfants, ados et maintenant pour les femmes, et de la déco pour eux, mais aussi pour nous. On y retrouve les plus belles marques, qu'elles soient iconiques, pointues ou tendances, mais aussi des coups de cœur ou des créateurs dénichés aux quatre coins du monde. Plus qu'un site en ligne, Smallable, c'est aussi un magazine, des inspirations, des conseils et deux jolies boutiques à Paris. Cécile aime les nouveaux projets et tout ce qui est beau, ça tombe bien, nous aussi. Bonjour Cécile.
Bonjour Hortense.
Alors, question toute simple pour commencer, comment vous est venue l'idée de créer Smallable? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la marque?
Alors, l'histoire de la marque, déjà une envie depuis longtemps de créer ma boîte. Donc ça me démangeait depuis quelques temps, puis je voulais d'abord faire un parcours et apprendre dans des entreprises. Et l'envie, si je crée ma boîte dans quelque chose de beau qui me parle, je suis une fan de produits, j'adore la mode, j'adore la déco. Et j'étais assez fan des concept stores, des logiques d'univers dans les magasins où on voit vraiment l'œil et le parti pris de la personne. Donc voilà, je tournais autour de cette idée. Et puis j'avais une trentaine d'années, pas mal dans mon entourage de copines qui commençaient à avoir leur premier enfant. Et là, en tant que jeune maman active, elles se disaient c'est une galère de faire 6 ou 7 boutiques pour habiller leurs enfants, trouver la déco, le mobilier pour la chambre, surtout avec des enfants en bas âge. Et là, je me suis dit qu'il y a une idée, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai voulu rassembler dans un même lieu plein de belles marques de créateurs dénichées un petit peu partout dans le monde et de les mettre à disposition de ces jeunes mamans via un site internet et un concept store pour enfants qui était sur les balles.
Mais d'accord, mais justement, vous venez de dire, je crois que vous n'aviez pas d'enfants à l'époque. Du coup, comment vous avez fait pour savoir ce qui était attendu par les parents?
Alors, je n'avais pas d'enfant, effectivement. Mon fils est venu un an après et j'ai pas mal bossé. Hein. J'ai fait une belle étude de marché, hein, tout simplement, comme quand on commence un projet. Interrogé pas mal de jeunes mamans dans mon entourage, mais pas que. Étudier vraiment le marché de la mode enfant, de la déco enfant. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer aussi un assortiment. Puis je pense que le fait de ne pas avoir d'enfant, je n'étais pas biaisée. J'avais un regard peut-être très objectif et je ne prenais pas en compte forcément mon goût que personnel, mais plutôt un regard objectif, c'est « Ah, ce produit, il est intéressant, il est à la fois fonctionnel, esthétique, et je pense construire un assortiment assez équilibré, et pas biaisé, peut-être. »
Et quels ont été les stades d'évolution du site? Donc, à la base, c'était uniquement pour les enfants, et après, vous avez eu la mode, la déco ensuite?
Alors, dès le départ, on a commencé vraiment un concept store, c'est-à-dire qu'on était un one-stop shop. On avait vraiment tout un univers autour de l'enfant, c'est-à-dire de la mode, de la déco, du mobilier, du jouet, du linge. Vraiment côté concept store dans la largeur de l'offre produit, avec une soixantaine de marques. Et c'était 0 à 6 ans, pour les enfants de 0 à 6 ans, donc vraiment plutôt petits, les bébés et jusqu'à 6 ans. Et en fait, on a grandi avec les enfants de nos clients qui nous disaient « Ah, mais l'année prochaine, on ne pourra plus habiller les enfants, nos enfants. » Donc, on a grandi jusqu'à 10 ans, 12 ans. Après, on a eu une autre problématique de nos clients qui étaient les ados. Un vrai casse-tête, en fait, 12-16 ans, comment créer une jolie chambre d'ados, habiller les ados? Et puis, il y a quelques années, on s'est rendu compte, et notamment avec l'ouverture de notre concept store physique à Paris, qu'en fait, les mamans, elles achetaient pour elles. Elles allaient piocher dans la déco qu'on proposait pour mettre des coussins dans le salon, des luminaires, des choses comme ça. Et puis, elles allaient aussi s'habiller dans le rayon un peu ado de notre site. Et c'est comme ça qu'on a intégré de la mode femme. Et maintenant, on a tout un univers pour la maison, pour l'ensemble de la maison, finalement.
À 30 ans, vous vous sentiez l'âme entrepreneur?
Alors, je pense que l'âme entrepreneur, je l'ai depuis petite. Vraiment, non, mais je pense vraiment petite.
Vous vouliez faire quoi, petite?
Petite, je pense que je voulais être dans les services secrets ou une détective, quelque chose de vraiment... c'était plutôt l'âme, voyager beaucoup aussi. Après, mais je pense que j'étais très indépendante depuis petite, assez déterminée, assez fonceuse, assez. Donc je pense que c'est des qualités qui vont bien avec un entrepreneur et envie d'avoir ma liberté assez vite. En revanche, je ne me sentais pas les épaules pour, juste après mes études, de me dire « ça y est, je lance ma boîte ». Non, je voulais vraiment me forger une assez solide expérience. Donc, c'est vrai que j'ai passé 7 ans dans deux grands groupes pour vraiment apprendre sur la gestion de marketing, les rouages d'une entreprise, comprendre comment ça fonctionne, des entreprises soit de 5000 personnes, soit de 200 personnes, du retail. Et ça m'a énormément en fait, aidée dans ce Smallable, et ça m'aide tous les jours en fait.
Les 10 ans ou les 11 ans de Smallable plutôt, ça vous...
10 ans.
10 ans, oui. Ça vous paraît loin?
Alors, quand je regarde un petit peu derrière moi, je me retourne derrière mon épaule, je me dis, oula, oui, effectivement, c'est un peu vertigineux, ça peut me paraître loin, et puis je vois tout le chemin parcouru. Ouais, la chouette ascension, ça fait plaisir. Et en même temps, j'ai tellement l'impression que, oui, limite, c'était hier, le démarrage, pas dans mes bureaux, avec deux stagiaires sur le coin d'une table, à tout faire soi-même aussi, à shooter à quatre pattes avec le photographe, les produits à plat, à répondre au téléphone, au service client. Enfin voilà, je suis passée partout en fait, dès le départ pendant quasiment, un an ou deux.
Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès et que le projet prenne une telle ampleur? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ambition dès le début?
Alors oui, il y avait de l'ambition, parce que je pense que j'ai de l'ambition pour cette boîte et... Je voulais la mener assez loin, j'avais un rêve effectivement au fond de moi, c'est d'avoir un concept store avec une visibilité quand même assez mondiale et de proposer à toutes les jeunes parents un peu aux quatre coins du monde, qu'ils soient en Australie, aux États-Unis, au Japon, voilà, c'est ces créateurs-là qu'on proposait chez Smallable. Donc oui, j'avais quand même une ambition. Après, de là à imaginer, il y a donc 11 ans quand j'ai commencé à bosser sur le projet, que ça arrive aujourd'hui à cette taille avec plus de 60 salariés, je ne le concrétisais pas comme ça forcément.
Sur le site, vous avez environ 800 marques. Alors, qui les trouve? Comment on les trouve? Comment on trouve des pépites? Quels sont vos critères de sélection?
Alors ça, c'est la partie quand même la plus sympa du job, c'est de justement construire cet assortiment. C'est faire un mix entre voilà, des iconiques, des emblématiques et justement ces jeunes designers, ces petits créateurs qui sont parfois confidentiels. Ils peuvent être connus dans leur pays, mais plus confidentiels par exemple en France ou en Europe. Et puis des jeunes marques débutantes qui sont assez prometteurs. Les critères de sélection, c'est... Il faut que ça nous plaise, il faut qu'on adhère à l'histoire, à la marque. C'est une rencontre, en fait, avant tout aussi avec des créateurs, avec des designers, avec une histoire, avec un univers aussi. Voilà, l'univers en termes d'image. Il faut que le produit nous plaise en termes de qualité, de façon de fabriquer aussi. On est hyper sensible à ça depuis le début. Et puis, il faut qu'on y trouve un intérêt pour notre client. Donc c'est ça, il faut que ce soit esthétique, belle qualité, belle fabrication. Qu'il y ait une histoire à raconter, parce qu'on parle vraiment de nos créateurs, on les interview, on montre vraiment ce qui se passe derrière, quelle est leur philosophie. Donc il faut qu'on relaie ça à nos clients. Et après qu'on trouve un intérêt, on dit ça peut plaire à nos clients, ça peut vraiment apporter quelque chose.
Mais comment dénicher des produits qu'on ne trouve pas partout? Comment vous faites?
Eh bien c'est l'œil, avoir l'œil, hein, c'est tout de suite pouf, de se dire ah ça c'est intéressant. Après c'est avoir l'œil, évidemment, on fait des salons professionnels, on fait des salons comme Maison Objet, bien sûr, mais c'est aussi dans un salon comme Maison Objet où c'est juste immense de justement dénicher parmi tout ça, de se dire « Ah, ça c'est intéressant !» Et puis après, c'est sorti de ce contexte de salon, de le mettre dans notre offre, où là, parfois, ça peut être complètement vu différemment. Et puis après, il y a les salons, certes, c'est important, mais après, c'est surtout beaucoup, on regarde sur Internet, sur Instagram, sur Pinterest, dans les magazines, dans la rue, quand je voyage, je m'inspire en fait beaucoup, et puis je trouve, et puis du coup, je prends des photos, je note, et on contacte. Et après, on a aussi beaucoup de designers et de marques qui nous contactent maintenant, beaucoup en direct, bien sûr. Et donc là, on fait un peu le tri. On reste toujours très sélectif. C'est important parce que c'est ce que nos clients attendent et c'est ce qu'ils veulent chez nous. C'est découvrir, mais avoir une vraie sélection et une cohérence dans cette sélection. Voilà.
Donc, votre offre, elle est très à la mode, vous le disiez, voire assez pointue. Comment vous faites pour savoir ce qui va être tendance?
Je pense que je sens, parce que je suis ultra perméable à un peu l'air du temps à tendance, et je pense que j'ai comme un radar un petit peu où je sens les mouvements, même dans les mouvements sociaux en fait, même dans le changement de... Je regarde beaucoup, je suis hyper observatrice. Et donc, parfois, ça va être un détail, ça va être une façon d'être, ça va être une façon, ah tiens, d'habiller qui va être différente, ça va être dans une déco dans un restaurant qui va marquer. Et là, ça va m'imprégner, en fait, tout ça m'imprègne de cet un peu air du temps. Et je pense qu'après, ma sélection s'inscrit là-dedans. Donc oui, elle est à l'air du temps, parce que je pense que je sens assez les choses. Et puis après, quand on travaille avec des designers qui sont justement un peu avant-gardistes, qui sont prescripteurs, bah après, on les suit aussi. Donc, voilà, ils sont prescripteurs, nous, on est prescripteurs. C'est un effet boule de neige.
Il y a un vrai ton, Smallable. Il y a vous me dites si je me trompe, je trouve un langage, des codes, une identité visuelle aussi. C'est important, tout ça, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avoir un style pour se démarquer, pour poser sa marque?
Alors, nous, on l'a travaillé dès le départ. Moi, je ne venais pas du web. Mon mari m'a aidé vraiment sur toute la partie, il m'a rejoint quelques temps après pour vraiment bosser à plein temps. En revanche, il m'a aidé vraiment sur tout le site, on l'a fait ensemble, toute la ligne éditoriale, les magazines, on les avait dès le départ, parce qu'on venait pas du web ni l'un ni l'autre. Et du coup, on s'est dit, ok, mais nous, on veut, si on fait ça sur le web pour une question de praticité pour les jeunes mamans qui ont envie de commander le soir sur le canapé une fois que les enfants sont couchés. En revanche, on refuse d'avoir un simple catalogue produits détourés sur fond blanc. On ne voulait surtout pas ça. On voulait apporter de l'âme, on voulait apporter en fait, tout le côté chaleureux et humain quand on va dans un concept store physique. Et c'est comme ça qu'on a parté de l'éditorial, qu'on a eu un ton peut-être qui nous caractérise. C'est difficile de le dire quel est notre style, notre ton, parce qu'en fait, on est tellement dedans que on l'incarne. C'est difficile avec un regard objectif de le dire, mais c'est vrai que vous n'êtes pas la première à nous le dire. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Smallable. Avant tout, on a voulu créer une marque Smallable. Évidemment, on vend des marques, mais on a voulu vraiment créer un univers de marques Smallable. Mon mari vient de la créa, de la pub, moi je viens du marketing, et je pense qu'on, voilà, pour nous c'est important d'avoir, il y a le contenant, il y a le contenu, et d'être très cohérent dans le ton, dans l'image, dans les produits. Et c'est vrai qu'on a réussi quand même à grossir, parce qu'on est passé de 60 marques, tout petit assortiment à aujourd'hui un nombre de marques assez importante. Et en même temps, ce qui ressort souvent de nos clients, des marques avec lesquelles on travaille ou des journalistes, c'est qu'on a gardé cette cohérence, qu'on a réussi à grandir sans perdre notre âme. Et toujours en gardant cette âme, ce ton. Donc je pense que c'est tellement intrinsèque, ça fait partie de Smallable dès le départ.
Quel métier se cache derrière un site de vente en ligne?
Oh, plein de métiers. Enfin, plein de métiers maintenant. C'est-à-dire qu'au début, on n'était pas très nombreux.
Et vous êtes combien aujourd'hui?
On est plus d'une soixantaine. Alors, il y a des métiers, déjà, il y a la tech, parce qu'il y a tous les développeurs pour faire vivre le site, ça c'est crucial. Il y a tout le web design et tout ce qui est user experience, justement. Donc là, c'est le front office, toute l'expérience client sur le site. Il y a les achats, évidemment, parce qu'il faut sourcer des produits, les acheter, les sélectionner. Il y a du marketing avec marketing web, mais également les réseaux sociaux avec nos propres comptes Instagram, Pinterest. Il y a également la gestion finance dans toute boîte. Et puis, il y a ce qu'on appelle les opérations avec tout ce qui est logistique, service client, transport, mise en ligne. On a du retail physique avec deux boutiques. Du service client pour chouchouter nos clients, voilà. Enfin, j'espère ne pas avoir oublié quiconque, mais oui, il y a pas mal de services aujourd'hui.
Vous êtes revendeur, vous venez de le dire, mais vous développez aussi maintenant vos propres marques. Mmh. Pourquoi?
Parce que je pense qu'on est assez créatifs, mon mari et moi, et on adore le produit, les couleurs, les motifs, on aime le produit, voilà. Et ça nous démangeait depuis quelques temps. Moi, je viens de là aussi, j'ai plutôt travaillé beaucoup auparavant sur le marketing produit, du développement produit, donc c'est quelque chose que je sais faire. Et on avait vraiment cette envie de se dire, nous aussi, on avait envie un peu de s'amuser et de créer par nous-mêmes. On a lancé du coup deux marques propres, une en vêtements pour enfants, 100 Pieces, qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans. Et donc voilà, on s'amuse, mais on voulait vraiment créer une marque aussi qui a une identité assez singulière, qui ne vienne pas cannibaliser les marques existantes, mais justement qui vienne apporter quelque chose sur le marché. Et pareil, on a créé une marque de déco qui est plus récente, là, qui a un peu plus d'un an, communauté de biens, et l'idée c'était d'avoir une marque un peu ombrelle pour la famille, puisque maintenant on est vraiment Family Concept Store. Et donc autour du linge de maison, on a commencé avec du linge de maison en lin lavé, dans une jolie gamme de couleurs pour enfants et pour adultes aussi. Et puis là, on va la déployer avec plus de petites décos, d'objets déco. Voilà.
Justement, si on axe un peu plus sur la déco, qu'est-ce qui marche le mieux, la déco enfant ou adulte? Est-ce que vous avez des bestes?
Alors, l'adulte, on y est venu plus récemment. Ça fait, on va dire, à peu près 2 ans qu'on déploie un peu plus l'univers de la maison pour adultes. Donc, évidemment, la déco enfant reste encore majoritaire, mais l'adulte a des, oui, se développe hyper bien. Mais c'est le début. Je dirais que c'est plus le début. Oui, bien sûr, on a des best-sellers parmi les, on va dire qu'on a plus de 500 marques de déco, marques de designer dans l'univers de la maison. On a forcément, oui, des best-sellers. On vend très très bien tout ce qui est linge, linge de lit, on vend très bien le mobilier, la vaisselle aussi. Et puis après, il y a des catégories qu'on a développées plus récemment, comme les bougies, les senteurs par exemple. Les tapis fonctionnent très bien, c'est assez varié.
Vous avez 2 boutiques dans le 6e, dont l'une qui vient d'ouvrir autour de l'univers des nouveau-nés. Pourquoi vous avez ouvert des boutiques physiques si le site marchait très bien ?
Alors c'était une volonté d'ouvrir, on avait une vraie envie d'ouvrir des points de vente physiques, parce que même si le web c'est un énorme potentiel commercial et international, c'est vrai que sur le web on n'a pas de limite en termes de géographie et d'offres. Donc ça c'est un formidable potentiel. En revanche, je suis assez convaincue par la présence physique, le fait d'incarner physiquement et d'aller à la rencontre de ses clients. Évidemment, on a tous les jours nos clients au téléphone ou par mail, voilà, donc il y a un échange même en interaction via le social media. Néanmoins, d'aller à la rencontre, d'incarner physiquement, donc c'est un petit extrait, nos concept stores, c'est 300 mètres carrés. Si on devait exprimer toute notre offre, ce serait 10 000 mètres carrés. Donc on ne peut pas, mais c'est un peu frustrant pour nous d'être dans un espace plus restreint. Bah, après, c'est un bon exercice. Mais c'est bien de montrer l'extrait, un petit extrait de notre sélection, de faire découvrir et de faire toucher et voir en vrai les produits, les marques. Pour la déco, c'est un super moyen de proposer des services additionnels qui sont beaucoup plus difficiles de faire par le web. On a beaucoup de demandes de nos clients sur l'aménagement de leur maison, de leur appartement, de déco de chambre, de salon. On a pas mal d'archis qui nous contactent aussi. J'ai un projet. Comme en fait on peut avoir un peu maintenant l'exhaustivité de la maison, du salon à la table, pour la salle à manger, la vaisselle. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment apporter ce côté conseil, solution un peu plus clé en main. Ouais.
Comment vous avez trouvé ce nom, Smallable, et pourquoi en anglais ? Dès le début, vous aviez une ambition internationale ?
Oui, alors dès le début, on avait une ambition internationale, parce que je ne voulais pas, en faisant un concept store sur le web, je ne voulais pas m'adresser qu'aux parisiennes, je voulais m'adresser aux françaises, mais pas qu'aux françaises, mais aux toutes les mamans de monde entier, parce que c'était un vrai besoin, je pense, qui concernait tous les jeunes parents du monde entier. On voulait un nom court, c'est-à-dire en un mot, parce que pour des problématiques de référencement sur Google, et donc un néologisme, parce qu'en fait Google, c'est mieux si effectivement on tombe sur un néologisme. C'est vrai que quand on regarde pas mal de géants du e-commerce, ils ont à chaque fois créé plutôt un néologisme plutôt que de s'appeler la petite galerie de déco par exemple, où là par contre c'est beaucoup plus difficile de remonter. Et après Smallable, pourquoi ? Parce que c'était l'idée justement d'aller dénicher les marques un peu plus petites, pas les grosses marques, mais les petits créateurs, les designers un peu plus niche, un peu plus confidentiel. Donc il y avait ce côté un peu en dehors des sentiers battus, un peu en dehors du radar du mainstream. Donc d'où le nom de Smallable.
Quel est votre rôle à vous, plus précisément, chez Smallable ? Est-ce que vous gardez un œil sur la sélection ? Vous êtes plutôt à la direction ? Vous êtes sur l'aspect commercial ?
Alors, je suis à la direction, je suis la PDG de la boîte. Donc, évidemment, j'ai un rôle de management au global de l'équipe et de l'activité de la société. Après, vraiment, mon expertise, elle est vraiment sur les produits, sur la sélection marque et produits. Donc, j'accompagne beaucoup. J'ai ma casquette aussi direction des achats, où j'accompagne beaucoup les équipes d'acheteurs, à la fois mode, déco, sur les salons, aller à la rencontre de nos marques. Donc, vraiment, vraiment, j'ai cet angle auquel je tiens vraiment à être et à driver et à insuffler aussi ces nouveaux courants, ces nouvelles tendances. Donc, je nourris beaucoup l'équipe là-dessus. Et puis, je chapeaute aussi un peu la marque propre, le retail et le marketing.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
C'est le produit, c'est les marques, c'est les rencontres. Les rencontres avec les créateurs, c'est... Je suis une fan de produits, de matières, de... Voilà, j'adore ça, donc c'est ça, vraiment.
Et le moins ?
Oh, le moins, le côté... Ok, le moins. L'aspect un peu juridique, administratif. J'aime bien le côté financier, économique, parce que j'aime bien, parce que c'est du business, mine de rien, derrière. Et puis, gérer une boîte, j'aime bien ça. Mais surtout le côté administratif, juridique, j'ai parfois un peu l'impression de perdre mon temps. Je trouve que c'est pas là où j'ai la plus grande valeur ajoutée.
Alors pour imaginer encore mieux vos journées, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les podcasts précédents, mais j'invente une semaine type avec des créneaux et vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 9h ?
Alors le lundi à 9h, déjà j'ai plutôt ma nounou qui arrive à 9h pour garder ma fille, donc je pars. Mais généralement le lundi matin, je suis sur... On a une réunion manager à 14h avec tous les managers pour présenter un peu le bilan de la semaine passée, les objectifs de la semaine, les chiffres. Donc le matin est consacré à ça un peu. Voilà, ça va être quoi cette semaine, le bilan, les chiffres, les résultats.
Le mardi à 17h.
Forcément une réunion avec une personne de ma team, ça peut être sur le produit, sur le marketing, la com ou avec les développeurs, une nouvelle fonctionnalité. C'est forcément, je suis en réunion, c'est le mardi à 17h.
Le mercredi à 12h.
Alors soit je suis comme la plupart du temps une soupe, une salade devant mon ordi, enfin très douce 13h, plutôt 13h, soit j'ai un déjeuner avec soit un entrepreneur pour un peu le côté aussi ouverture, partage, échange, ou bien une journaliste, ou bien une marque, un créateur.
Le jeudi à 20h.
Soit je suis au bureau, c'est à peu près l'heure vers 20h, 20h30 où je pars, soit je suis à mon cours de yoga.
Et le vendredi à 14h.
Alors souvent les vendredis après-midi sont consacrés à des choses plus créatives, plus côté soit produit soit marque propre. Faire le point avec les stylistes sur la création.
Quel est le moment de la journée que vous préférez ?
Le matin et la fin de journée, à partir de 18h, je suis assez tranquille, je peux bien me concentrer. 18-20h, je peux pas mal dépoter.
Et il y a moins de monde aussi.
Il y a moins de monde, c'est pour ça. Je suis moins en réunion à droite à gauche, donc je suis moins dérangée aussi.
Alors, vous travaillez aussi avec votre mari, qui est votre associé, mais il vous a rejoint 1 an et demi après le lancement. Donc, sur le papier, c'était un peu vous la bosse. Comment il a réussi à rentrer dans l'aventure et à prendre sa place ?
Alors, on a créé déjà la société ensemble. Dans les statuts, on est vraiment associés ensemble. Après, lui, il conservait...
Ah oui, vous l'avez quand même imaginé ensemble.
On l'a quand même imaginé ensemble. Pendant 1 an et demi, oui, j'étais seule déjà même avant le lancement à réfléchir à tout le positionnement, le business plan, tout ça. Il a beaucoup travaillé à mes côtés sur la partie site, éditorial. C'était des soirs et des week-ends en dehors de son boulot. Il conservait son boulot de directeur créé dans la pub. Pour une raison simple, c'est que j'avais quitté mon travail, donc on est un couple, on ne se paye pas pendant quelques années quand même quand on est entrepreneur. Tous les deux à ne pas se payer, c'était juste pas possible matériellement. Et puis après, c'est une prise de risque, hein, de toute façon, je ne savais pas si ça allait marcher, je voulais d'abord prouver le concept, voir. Et c'est vrai qu'au bout d'un an de lancement du site, ça a commencé à prendre. J'étais enceinte, j'allais accoucher et je lui ai dit, écoute, je pense que là, ce serait peut-être pas mal que tu me rejoignes. Je pense que ça va commencer à prendre et puis je sens que toute seule, je ne vais pas y arriver non plus. Donc viens, rejoins-moi, on y va. On s'embarque tous les deux à fond dans l'aventure.
Et est-ce que vous arrivez à compartimenter votre vie et à pas trop parler boulot le soir et le week-end ?
Non, c'est impossible. C'est impossible. En fait, c'est fait partie de nous. C'est pour ça qu'en même temps, c'est une vraie force d'être entrepreneur en couple, dans le sens où en fait, on en parle. On est habité hein, par Smallable, par notre projet. Ça fuse tout le temps. Donc même le week-end, on peut avoir une idée, on peut avoir un déclic. Donc on cloisonne plus physiquement, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas travailler le week-end avec les enfants. Voilà, c'est de couper par rapport aux enfants. En revanche, nous, entre nous. En vacances, le soir, à tout moment, oui, non, je crois que c'est assez impossible de cloisonner. qu'on bosse moins qu'au début où là c'était vraiment du non-stop tout le temps, faut pas se le cacher, c'est faut énormément bosser, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup quoi, ça nous habite.
Est-ce que vous trouvez que la vie est plus cool quand on est la patronne, entre guillemets, parce qu'on peut déléguer et que vous ne devez de compte à personne, ou ça reste une grande responsabilité que vous prenez très au sérieux ?
Ah, plus cool, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que justement, on a des responsabilités sur les épaules, des responsabilités même vis-à-vis voilà, des actionnaires. J'ai quand même des friends and family qui ont investi aussi, dès le départ, qui nous ont fait confiance. On a des actionnaires, des investisseurs sans lesquels on n'aurait pas pu aussi évoluer, se développer. Et puis on a aussi plein de salariés. Moi, je n'ai pas envie, j'ai une grande responsabilité aussi vis-à-vis de l'équipe, de bien gérer ma boîte pour ne pas leur dire du jour au lendemain, non, désolé, finalement, ça ferme, ciao, bye. Donc, c'est plutôt des grandes responsabilités. Après, j'aime ça. C'est pas le fait d'être à la tête de sa boîte. Pour moi, j'aime cette liberté, j'aime cette indépendance et j'aime prendre ses décisions. C'est ce qui pouvait me frustrer en étant salariée. J'apprenais, mais en même temps, pas décider. Donc, avec les hauts et les bas, on est seul face. Pas seul, on ne gère pas tout seul la boîte, hein, c'est un travail collectif. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où cette responsabilité, on la porte assez seule.
Justement, le 8 mars, pour la journée de la femme, vous avez fait un post Instagram où vous disiez notamment qu'il y a seulement 2% de femmes qui occupent des postes de CEO. Comment vous vous sentez à ce poste ? Donc, vous venez de dire, vous vous sentez quand même une âme de manager, mais vous l'avez appris avec les années, vous êtes à l'aise dans ce rôle ?
J'ai beaucoup appris, j'ai appris sur le terrain. Je pense que autant je peux avoir l'âme d'entrepreneur, de développeur, de propulseur, un peu. Autant l'âme de manager, ça s'apprend en fait. Le management, ça s'apprend. Puis c'est une interaction, donc ça s'apprend avec les équipes, avec l'humain, avec les personnes avec qui on est en interaction. Évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise, sereine, et j'aime de plus en plus ça. Après, je pense que j'ai cette facilité parce que je suis beaucoup dans l'échange et la communication. Et j'aime ça. Donc il faut déjà aimer manager les gens. Aimer le contact humain, il y a des gens qui n'aiment pas en fait ça, donc ça j'aime. Après je me perfectionne tout le temps et j'apprends tout le temps et c'est important.
Et est-ce que dans la vie privée vous êtes aussi quelqu'un comme ça de décisionnaire, un peu chef de tribu, ou vous sentez que vous avez deux personnalités qui s'adaptent à chaque fois au contexte?
Non, je n'ai pas deux personnalités, je ne suis pas du tout Dr. Jekyll Mr. Hyde. Je suis assez déterminée aussi dans la vie personnelle. Non, je pense que je suis très fidèle comme je suis dans la vie perso ou la vie boulot professionnelle. Je suis assez fidèle à moi-même. De toute façon, je suis assez quelqu'un d'entière, donc on lit assez bien. Enfin, non, je suis comme ça. J'aime plutôt décider. Après, je lâche un petit peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand par exemple on part en vacances avec des amis, je suis pas forcément à j'aime pas le côté régimenté ou quoi que ce soit. Je suis plutôt assez participative, collaborative, mais j'impose pas trop. Après, j'aime bien quand même driver, décider, gérer, organiser. J'aime bien organiser, même dans le frigo, organiser.
Quels sont vos coups de cœur récents sur Smallable pour une marque ou une nouveauté ?
Alors, coups de cœur, il y en a pas mal, hein. C'est toujours difficile de dire parce que on rentre plein de jolies choses tout le temps et quand même tellement. Non, j'ai un vrai coup de cœur pour une marque allemande qui fabrique, dans l'univers de l'enfant, Bernbach & Crafted, qui fabrique toute une gamme de lits et berceaux en rotin naturel, des fabrications japonaises, indonésiennes, mais vraiment dans un côté très, très naturel, très green, et avec des lignes et un design assez unique que j'ai jamais vu en fait. Il y a le côté, ça fait pas vintage dans le rotin vintage, c'est très moderne, j'ai trouvé ça très nouveau et très beau. Et très belle fabrication, très beau produit.
Quel est votre style déco à vous, personnellement ? Qu'est-ce que vous aimez ?
Alors, mon style déco, moi, j'ai besoin déjà dans mon appartement d'avoir de l'espace et de la lumière et des coloris finalement assez neutres pour apaiser mon œil, mon esprit. Alors que dans la mode, je suis plus colorée, mais dans la déco, je vais apporter des touches de couleur, mais j'ai besoin plutôt du... Donc, c'est assez blanc, bois, noir, quand même, beaucoup chez moi, avec des petites touches de déco, comme de couleurs. J'aime les lignes assez pures. J'ai un vrai mélange de styles, de contemporain et de vintage. J'ai beaucoup de vintage, en fait. On aime bien chiner. Donc, c'est vraiment un vrai mix de contemporain et de vintage, parce que j'aime aussi voilà le mobilier qui a vécu, surtout en mobilier vintage, un peu en action, même en déco aussi. J'aime ce qui a vécu, qui a une histoire, qui a une âme en quelque sorte. J'aime les belles pièces de designer, plutôt années 50, années 60, tu peux de 70.
Est-ce qu'il y a ouais, une figure ou un courant du design que vous aimez ?
Assez 50, assez 60. J'aime bien, oui, les lignes les lignes années 50. Je suis assez fan des pierres, les pierres Paulin, les pierres Jeanneret, les pierres... ouais, les pierres Garriche, c'est marrant. C'est pas parce que mon mari s'appelle Pierre. Hein.
Rien à voir.
Rien à voir.
Quel est votre dernier achat déco ? Pas forcément chez Smallable, bien sûr.
Alors, dernier achat déco, une réédition d'un fauteuil édité par Gooby, de Pierre Paulin justement, mais réédition chez Gooby, d'un Pacha Lounge, un fauteuil tout rond, blanc, un peu immaculé, avec un joli tissu reliefé, assez bas, hyper confortable, sur lequel ma fille adore être.
Vous changez souvent votre déco ?
Pas si souvent que ça, je change beaucoup par le côté, par le linge de lit, par les coussins, par de la vaisselle, des vases, mais en fait la déco de toute façon ça se fait un peu au fur et à mesure, donc je me précipite pas quand j'arrive dans un appart, je suis pas d'un coup en 3 mois c'est fait, j'aime bien prendre le temps de dénicher, de chiner, de constituer, voilà, au fur et à mesure et de rajouter des pièces, d'en enlever, voilà. Donc le gros reste. Et après, j'apporte de la petite déco par saison, selon mes envies. Et voilà.
Est-ce qu'une jolie déco est compatible avec de jeunes enfants ? Vous parliez de votre fille tout à l'heure.
Bien sûr que c'est compatible, hein. Bah, complètement. Et chez Smallable, on a fait venir de la jolie déco et du mobilier et des beaux jouets qui sont à la fois hyper ludiques, pédagogiques, créatifs, mais qu'on peut laisser traîner dans le salon, dans la salle à manger, dans la chambre. Et c'est hyper compatible, enfin, je le fais au quotidien. J'avais pas la chance d'avoir toute cette offre-là, toutes ces belles choses pour mon fils, donc c'était un peu plus le casse-tête. Et là aujourd'hui, mais enfin, si j'avais eu mon fils maintenant, je m'éclaterais encore plus, donc je m'éclate pour ma fille. Mais oui, c'est complètement compatible. Et faut pas tomber dans le travers. Ah bah non, bah, il faut du pur fonctionnel et du coup pas très joli ou moche. Non, maintenant aujourd'hui, il y a des belles choses qui sont et fonctionnelles et très esthétiques et pas dans forcément des couleurs.
Quelle est la pièce que vous préférez chez vous ? Est-ce qu'il y a un endroit qui vous ressemble particulièrement ou dans lequel vous vous sentez vraiment bien ?
Alors c'est la cuisine, on est hyper contents cette fois-ci parce qu'on a une grande cuisine dînatoire et c'est vraiment la pièce centrale, en plus c'est vraiment ce qui fait communiquer entre la partie, les chambres d'enfants et le salon et notre chambre. Donc c'est vraiment la pièce centrale qui est très ouverte, on a un appartement traversant donc elle est ultra lumineuse. C'est la pièce où on se retrouve et mon mari cuisine beaucoup, donc voilà, il y a les enfants qui sont en train de faire, enfin, mon fils qui fait ses devoirs, ma fille, on peut lire un livre, et de se retrouver dans cette cuisine. En plus, elle donne aussi sur une petite cour qui est très arborée, on voit le ciel, qui est assez ensoleillé, donc ouais, c'est vraiment cette pièce-là.
On va terminer avec les questions à Wattmill, que vous connaissez. Question à 19€, alors le prix d'une affiche Mathilde Cabanas sur les règles de la maison chez Smallable. La règle numéro 3, c'est ranger ses chaussures et son manteau en arrivant. Donc ça me fait penser, quand on a un bébé et qu'on fait un dîner, certains parents demandent aux invités de se déchausser. Vous trouvez ça normal ou grotesque ?
Alors, j'adore le côté japonais. Je trouve que c'est hyper hygiénique, effectivement, à la japonaise, d'enlever ses chaussures et d'être en chaussettes aux pieds nus. Ça. Par contre, en revanche, je déchausse jamais mes invités. Moi-même, oui, on se déchausse à la maison, mais les enfants et tout ça. Après, j'accepte que tout le monde ait ses chaussures.
Question à 29€, le prix d'un bonnet en cachemire Émile et Ida sur Smallable. Là, il fait de nouveau un peu froid à Paris. Vous êtes plutôt team bonnet ou cagoule pour les enfants ?
Alors, bonnet pour mon fils et pour ma fille, il y a des super jolies petites cagoules d'une marque américaine Huff New York avec des petites oreilles de Bambi et donc effectivement qui mettre sous le manteau, donc petite cagoule. C'est quand même tellement mignon de voir sa petite bouille avec ses petites oreilles qui pointent au-dessus de la tête.
Donc team cagoule. Et question à 39€, le prix d'un sac à dos rive droite chez Smallable. C'est assez tendance, mais il y a quand même débat pour ou contre le sac à dos pour une femme.
C'est assez tendance, hein, comme la banane en travers aussi. Personnellement, je ne suis pas fan. personnellement, voilà. Moi, je ne porterai pas de sac à dos, je l'aime beaucoup sur les hommes, sur mon fils, les enfants, sans problème. Moi, j'accroche pas, non.
Merci beaucoup, Cécile.
Merci beaucoup, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.